Culture Club, une émission présentée par Victor Loupan.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Culture Club du jeudi consacrée à la littérature religieuse, livre qui parle de la foi, de la religion, de Dieu, etc. Ce qu'on appelle aussi, dans notre jargon, la littérature spi. Qu'est-ce que la foi ? Que signifie au juste l'expression « avoir la foi » ? La certitude à laquelle prétend la foi relève-t-elle de l'idée ? Suppose-t-elle l'existence de Dieu, la vie après la mort, des vérités cachées ? Faut-il vraiment croire l'incroyable ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que répond le livre d'aujourd'hui, dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'appelle « La foi n'est pas ce que l'on croit ». Jérôme Alexandre, bonjour. Vous avez écrit ce livre que je trouve vraiment particulièrement utile, non seulement pour les croyants que nous sommes, mais aussi pour ceux qui s'intéressent, qui s'interrogent sur le fait de croire. Et je remercie d'ailleurs Jean-François Roth de la Procure d'avoir eu l'idée de parler de ce livre. Nous l'avons déjà présenté la semaine dernière. Et pourquoi ? Alors, moi, je l'ai lu. Et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Mais pourquoi avez-vous pensé en premier, à ce livre ?
Alors, Victor, moi, j'ai reçu le livre et j'ai commencé à le lire. Et en fait, je ne l'ai pas lâché.
Ah, bah oui.
Et j'ai trouvé que c'était vraiment un livre tout à fait remarquable. Comme on en rencontre pas si souvent que ça, vraiment, je dis ça à tous les auditeurs, c'est un livre qui peut vraiment intéresser tous ceux qui ont un peu, je dirais, la fibre philosophique. Alors surtout, n'ayez pas peur, c'est un livre qui n'est pas du tout jargonnant, c'est pas un livre qui est fait pour des spécialistes, c'est pas un livre qui est fait pour des gens super cultivés, pas du tout. C'est au contraire une expérience de pensée. Si vous avez un peu envie de réfléchir simplement, tranquillement, mais à fond, sur la foi, prenez ce livre, donc de Jérôme Alexandre. Vous allez voir, c'est une expérience de pensée formidable. Et pour vous donner un peu une idée de son style, je vous propose de lire juste quelques lignes qui débutent de son ouvrage. Il se peut que disserter sur la foi soit d'abord confesser qu'on ne l'a pas. La foi vous manque toujours. Plus on pense l'avoir, du reste, plus on voit son imperfection. Personne n'a jamais vraiment la foi, et ses témoins authentiques sont rarement ceux qui la clament et qui s'en font une marque identitaire. Mais qu'est-ce qu'avoir la foi ? L'expression est courante et pourtant insolite. Est-ce du même ordre qu'avoir de la chance, avoir une bonne santé ? Quel est cet avoir qui vous range parmi les possédants ou parmi les démunis ? On dit aussi qu'on peut perdre la foi ou bien la trouver. Celui qui désespère de l'absurdité de la vie admire celui qui a la foi. Cette réponse sécurisante et belle, sans doute trop consolante pour être vraie. Voilà. Vous avez là comme ça un exemple du style de Jérôme Alexandre. Ce ne sont que des mots simples, il n'y a pas de jargon. Mais par contre, c'est assez exigeant parce que ça vous oblige vous-même à penser. Et je trouve que ce livre-là est magnifique.
Alors, ma première question, Jérôme-Alexandre, parce qu'on vous a invité, et puis on n'entend pas votre voix, c'est nous qui parlons. C'est nous qui parlons, c'est le péché mignon, disons, des journalistes, ceux qui font de la radio, on est de grands bavards. Mais la première question est quand même, elle s'impose par le titre de votre livre, « La foi n'est pas ce que l'on croit ». Et si la foi n'est pas ce que l'on croit, qu'est-ce que c'est ?
Alors, dans cette expression qui a un aspect un petit peu provocateur, c'est vrai. Mais bon, c'est fait pour, au fond. Voilà,
bien sûr.
On va chercher en ouvrant le livre un petit
peu. C'est un très beau titre. La foi n'est pas ce qu'on en croit, c'est très bien.
La foi, c'est paradoxal. Et ça met d'emblée en évidence le fait que, habituellement, quand nous parlons de la foi, quand nous témoignons du fait de l'avoir, ou décidément de ne pas pouvoir l'avoir, de regretter peut-être de ne pas l'avoir, ou bien d'être bien content d'avoir échappé à cette chose bizarre qu'est le fait de se tenir dans la foi. Bref, on a tout de suite à l'idée le fait des vérités de la foi. Les vérités de la foi, eh ben, c'est tout de suite ce que l'on croit, justement, ce qui peut s'énoncer en mots qui ont du sens et qui, additionnés les uns aux autres, finissent par faire un credo, faire une référence commune de ce qui est cru. Ce qui est cru, c'est les objets de la foi. Voilà. Alors, le livre, il entend justement déjà interroger le fait que, au fond, ce déplacement de l'esprit interrogé, avez-vous la foi, qu'est-ce que c'est que la foi, tout ça, sur les objets de la foi, eh bien, ce déplacement rate l'essentiel. L'essentiel étant que la foi, justement, n'est jamais réductible à ce que l'on croit. Alors, je suis plus radical dans le titre, la foi n'est pas ce que l'on croit. Elle est quoi donc ? Ben, elle est ce qu'on vit, bien entendu. Elle est ce qu'on vit, et ce qu'on vit, c'est bien rarement de l'ordre des idées. C'est quelquefois, et peut-être trop souvent, hélas, de l'ordre de l'imagination, dans l'ordre de la foi, on imagine comme ça des affaires qui ne sont pas visibles, qui se tiennent dans l'au-delà, etc. Bon. On est dans des conjectures et on est croyant dans des représentations. On adhère à des idées, on est croyant dans des représentations. Or, ce qu'est la foi vécue n'est pas du tout de cet ordre-là. C'est de l'ordre, évidemment, d'un consentement très intime, très intérieur, dont on ne connaît pas toujours les raisons, soi-même, dont certainement on peut dire la dimension de crédibilité quand on veut naturellement en rendre compte d'une manière un peu intelligible, mais ce sera d'abord et avant tout, et il est essentiel d'y revenir beaucoup, d'un ordre, vous voyez, qui est celui de l'expérience, bien sûr, qui est l'ordre affectif, qui est l'ordre psychologique, qui est l'ordre intime dans tous les cas.
J'avais un ami qui était très cultivé, qui un jour m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il m'a dit, et qui m'a interrogé, il m'a dit « Je ne suis pas comme toi, il m'a dit, je n'ai pas la grâce de croire. » Est-ce que la foi est une grâce ?
Oui, c'est certainement une grâce. Certainement une grâce. Alors, si on retourne l'expression « avoir la foi » dans le fait d'être que la foi nous a bien davantage, on comprend par là que la foi, c'est un saisissement d'une vérité qui nous dépasse absolument, que nous comprenons avec difficulté, que nous accueillons surtout dans un grand mouvement de confiance. Grâce donnée, certainement, quel est le meilleur mot pour dire en effet ce qui vous arrive quand vous reconnaissez la vérité au travers de l'évidence sensible qui est au fond de nous dans la rencontre d'une personne, quelquefois dans la lecture de textes qui vous informent en effet de faits historiques ou de propositions d'enseignement, je ne sais, mais en fait ce qui se passe dépasse complètement les propositions et l'ordre simplement de l'intelligible pour vous atteindre comme une grâce absolument de fait vis-à-vis de laquelle il n'est possible que de répondre en confiance. Alors, ça pose, vous voyez, tout de suite la foi du côté du sensible, bien sûr, mais du côté de l'amour, naturellement.
Que faire alors de la phrase, de la fameuse phrase de Pascal, « Mets-toi à genoux, la foi viendra ». Parce que là, si vous voulez, c'est le contraire de la grâce. Je veux dire, « Mets-toi à genoux, la foi viendra oui. », c'est-à-dire que fais oui. aussi l'effort de croire. Parce que la grâce peut vous venir, oui. peut tomber dessus, vous ne la voyez
à
pas.
À condition hein. de bien saisir d'emblée que ça ne sera pas un effort intellectuel.
Oui, oui.
Mais un effort peut-être bien plus difficile, qui est l'effort de se mettre à disposition. C'est pas peut-être au fond de se vider un peu soi-même de tout l'encombrement de nos représentations, de nos bavardages, de nos attentes, etc., pour se rendre disponible à quelque chose qui viendra, qui ne viendra pas, mais qui est une altérité fondamentale.
Jean-François Rode,
vous dites à un moment que dire je crois en Dieu ou je ne crois pas en Dieu, c'est pas du tout clair.
Alors c'est non seulement pas clair, mais ça n'a pas grande importance. Vous pouvez parfaitement, en effet, poser l'existence de Dieu, dire ben voilà, j'adhère au fait que Dieu existe. Il faut bien qu'un Dieu existe pour que le monde soit, je ne sais quoi. Enfin, bref, vous pouvez parfaitement échanger sur ces sujets avec quelqu'un qui se revendiquera athée. Vous-même n'étant pas tout à fait sûr d'y croire, parce que il est bien évident que si la conversation se poursuit un peu, que vous essayez d'approfondir ça, vous rendez compte qu'il faudrait déjà être en capacité d'aller beaucoup plus loin dans l'idée de Dieu, de définir un peu ce dont il s'agit, etc. Et là, vous ne pouvez pas indéfiniment ajouter des mots aux mots, encore moins des mots savants, sur une réalité qui peut-être est infiniment simple. Et vous devez absolument parler de vous-même. Qu'est-ce qui se passe quand vous croyez en Dieu ? Croire en Dieu, c'est qu'il se passe quelque chose en nous de fondamental. C'est si important que ça peut changer, bouleverser complètement les existences. C'est de ça dont il s'agit. évidemment, et non pas de l'idée de Dieu en aucune manière.
Votre livre est divisé en une multitude de petits chapitres, qui ont chacun un thème bien particulier et qui font entre 5 et 10 pages, ce qui rend la lecture d'ailleurs beaucoup plus, beaucoup plus facile. C'est-à-dire que c'est pas un traité comme ça, c'est pas un tunnel dans lequel on s'engage. Au contraire, c'est chaque fois des angles de vue assez différents et qui se complètent, bien sûr. Et vous avez un chapitre au début du livre qui s'appelle « La foi commune ». Et personnel, et j'aimerais bien entendre votre avis là-dessus, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont une foi personnelle qui souvent est assez éloigné du dogme de l'Église. Il peut vous dire je crois en Dieu, etc. Bien sûr, je crois pas à la résurrection, je pense pas qu'il soit monté au ciel, mais enfin j'aime le Christ. Vous voyez ce genre de choses. Qu'est-ce que vous entendez par foi personnelle?
Oui, alors justement, oui, c'est sûrement pas ce que vous laissez entendre dans la manière dont vous en parlez. La foi personnelle, ou c'est simplement le bricolage que chacun peut faire au fond de ce qu'il l'arrange de croire. Oui, non, c'est certainement pas ça. La foi est personnelle, bien entendu, elle n'est que ça. Mais au sens où puisqu'elle est foi, elle est accueil, n'est-ce pas, d'une vérité qui n'est pas nous, qui ne dépend pas de nous et que nous ne construisons pas nous-mêmes. Donc dans la foi personnelle, dès lors qu'elle est foi, et il faut certainement s'attarder seulement sur ce mot de foi, elle est une confiance fondamentale dans une vérité, dans un bien, dans une lumière, qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient d'un autre. Alors, c'est là où arrive, en vis-à-vis de la foi personnelle, la foi commune. Il est bien évident que nous recevons la foi, certes, de la grâce de Dieu, nous le disions tout à l'heure, mais nous la recevons par le canal d'une tradition, par le canal d'une révélation, par le fait, justement, d'un langage qui, par définition, nous met sur le terrain de la communauté.
Mais une pratique aussi, peut-être, non? Une pratique?
Alors, pratique, je dirais que la foi n'est que ça. Sauf à comprendre que la pratique n'est pas la mise en application seconde de ce que serait la conviction énonçable en termes intellectuels, absolument pas. La pratique, elle est déjà le commencement même de la foi dans l'adhésion confiante en ce qui nous dépasse. Ça, c'est déjà une pratique, c'est une réponse amoureuse au mouvement d'amour de la grâce. C'est ça la foi. La foi est tout entière pratique.
Jean-François, oui, vous faites bien sûr justement référence aussi, par exemple, à l'appel des disciples par Jésus. C'est dans votre chapitre oui. Une foi sans croyance.
Une foi sans croyance. Croyance au pluriel. Hein.
Oui. En fait, il passe, il appelle, et aussitôt ces hommes-là le suivent. Il n'est pas question de dénoncer un certain nombre de vérités. En fait, il décide de le suivre. Donc.
Oui, c'est très frappant. C'est très frappant, on a ça au début des évangiles synoptiques, cette puissance qui devait bien être celle de Jésus, qui, au seul fait d'apparaître à ces pécheurs absolument pas prévenus de quoi que ce soit, et sans doute pas en attente non plus d'ailleurs d'un Messie qui surviendrait comme ça au beau milieu de leur travail quotidien, tout ça, bon, c'est extrêmement surprenant de voir dans la sobriété de ce qui est raconté, et c'est sûrement intentionnel, un phénomène au fond de rencontre qui ne peut reposer que sur finalement l'aura de Jésus, que sur quelque chose qui émane puissamment de lui et qui inspire aussitôt une confiance étonnante, puisque quand même abandonner son métier, sa famille, etc., et tout de suite sans demander pourquoi ni comment ni où ça va nous conduire et tout ça, fait que plusieurs se mettent à le suivre et du coup d'une manière qui n'est pas première mais seconde, écouter ses enseignements et commencer un tant soit peu, un tout petit peu, ça va d'ailleurs s'élaborer très lentement et pas facilement, à comprendre de quoi il s'agit, qui il est et ce qu'il fait sur cette terre.
Et ce qui est frappant aussi, c'est qu'il va voir toutes sortes de voisins, des pêcheurs, des gens assez simples, des va-nu-pieds, des gens qui sont de peu d'instruction. Les gens, disons, les hommes, l'équivalent de nous de l'époque, ne le suivent pas, quoi. Enfin,
c'est ça, c'est ça.
Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et ça nous ramène aussi au fait que parle des enfants, laissez venir à moi les enfants, etc.
Oui, tout à fait. C'est un des aspects que je souligne assez fortement. Vous avez raison de le reprendre dans ce livre. Je crois que c'est en effet très important de comprendre que si la foi se conçoit absolument comme confiance interhumaine, comme vie relationnelle d'emblée, à une altérité qui nous dépasse, en réalité, donc, et si elle n'est donc pas le fait simplement d'une adhésion intellectuelle qui pousserait complètement, donnerait les bonnes raisons de croire et de se mettre en route, en chemin, bon, non. Si la foi est cette affaire intime qui vient par l'intuition qu'on a en face de soi une altérité, quelqu'un, etc., qui vous inspire absolument la plus grande des confiances et en qui vous pouvez confier, remettre finalement votre destinée personnelle, vous voyez bien que forcément, cette foi, comprise ainsi, elle s'adresse au simple, et de préférence au simple. Vous voyez, Tertullien, qui est l'auteur que j'enseigne souvent, que je connais bien, qui était un très grand théologien, un des premiers de l'histoire de la théologie latine, il vivait à Carthage à la fin du second siècle, début du troisième siècle, il avait écrit un petit ouvrage, qui n'est toujours pas traduit en français d'ailleurs, bon, ce qui fait qu'il est un peu inaccessible, mais voilà en quelques mots ce qu'il proposait. Il expliquait que l'âme, ou l'esprit si on veut, la conscience, dès lors qu'elle fait taire en elle toutes les représentations, les bavardages, le bavardage intempestif et permanent. Si on fait attention à soi-même, on s'aperçoit qu'on est tout le temps en train de se raconter des tas d'histoires dans tous les sens, etc., et d'être dans une dispersion, dans une littérature pas forcément passionnante d'ailleurs, mais permanente. Bon, bref, si on tait en soi tout cet encombrement au fond de la conscience qui nous disperse, qu'on essaie de se recueillir, de revenir à une espèce d'état de présence de soi à soi. Alors, dit Tertullien, l'âme qui fait cet exercice, elle se rend absolument disponible à ce qu'elle va assez vite recevoir comme étant une évidence, et c'est cela la foi. La foi, c'est la reconnaissance comme évidente par l'intimité de la conscience revenue à sa simplicité première, n'est-ce pas, de l'altérité qui la fonde. Voilà ce que raconte Tertullien. C'est tout à fait magnifique parce que ça montre, avec une explication qui est extraordinairement intéressante, parce qu'elle montre la compréhension qu'il avait de la psychologie humaine, y compris des enfants, justement, des simples, des personnes qui ne sont pas occupées par des idées, etc. Bien, il montre comment et pourquoi, au fond, l'Évangile se reçoit de préférence par ceux qui, finalement, parce qu'ils n'ont rien peut-être, parce qu'ils sont des pauvres d'esprit, sont disponibles à son accueil.
Nous allons faire une petite pause parce que c'est la tradition de l'émission est de présenter quelques nouveautés aussi de littérature, bien sûr, religieuse. Rapidement, peut-être, Jean-François.
Oui, trois livres très, très différents, même de ce qu'on... Yves Combeau, c'est un dominicain qui nous fait un « Toujours prêt, histoire du scoutisme catholique en France » aux éditions Lucerne. C'est la première fois qu'on a une histoire complète du scoutisme. Yves Combeau est donc un dominicain, mais il est aussi un historien. Il a fait l'école des chartes. Et ce qui l'intéresse, c'est non seulement de raconter les débuts du scoutisme et toute sa naissance en France, mais aussi pourquoi ce scoutisme s'est divisé. Et ça, c'est très intéressant. Et lui, il analyse cette division du scoutisme comme finalement signe d'un certain nombre d'options différentes, d'ailleurs qui sont peut-être justement tout à fait respectables.
Donc c'est aux éditions du Cerf, Yves Combeau.
Yves Combeau, ça s'appelle « Toujours prêt ». Jean-François Colosimo maintenant, « L'apocalypse russe », sous-titré « Dieu au pays de Dostoïevski », c'est l'apparition en poche d'un essai qui est d'une dizaine d'années. Et c'est vraiment formidable. Colosimo est un spécialiste des idées politiques, un essayiste, c'est aussi un théologien orthodoxe. Et là, il fait une analyse de la Russie, justement, à partir de le rapport très spécial qu'a la Russie avec la religion. C'est un très beau petit livre qui s'appelle donc « L'apocalypse russe ».
Et c'est chez qui ?
C'est chez Le Cerf aussi, ouais. Mais dans une collection de poche qui s'appelle « Lectio ».
C'est ça.
Et je termine par un livre sous la direction de Philippe Capel-Dumont et de Daniel Cohen-Lévinas qui s'appelle « Judaïsme et christianisme dans la philosophie contemporaine ». c'est toujours aux éditions Lucerne dans la collection Philosophie et Théologie. Ah, c'est un livre très intéressant parce que il a, les auteurs, les directeurs ont demandé à un certain nombre de personnes de quelles avaient été les relations, l'analyse des relations entre judaïsme et christianisme dans les dans leur œuvre. C'est très, à chaque fois, c'est quelques pages pour des grands auteurs et à la fois aussi quelques extraits et une bibliographie.
Vous nous redonnez le titre ?
Ça s'appelle « Judaïsme et christianisme dans la philosophie contemporaine ».
Aux éditions du Cerf. Et nous revenons à notre livre de vedette de cette émission, le livre de Jérôme Alexandre que nous recevons ici, qui s'appelle « La foi n'est pas ce que l'on croit » et qui sort dans la collection Forum aux éditions Salvator. Il nous reste peut-être 5-6 minutes avant la fin de l'émission. Et il y a quand même, en vous écoutant, vous faites référence à des philosophes, etc., ici, plus loin dans le livre, vous parlez de Kierkegaard, enfin, etc., etc. Et pourtant, ceux qui ont combattu le christianisme, disons, depuis 200 ans, l'ont combattu au nom de la raison, n'est-ce pas ? En disant, voilà, c'est une superstition, c'est un fanatisme, je cite Voltaire, hein. Voilà, c'est, etc. Alors que on peut se demander si la victoire du Christ, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, n'est pas justement la victoire de la raison. En tout cas, à vous lire et à vous écouter, je me dis que c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout une foi aveugle, c'est pas du tout une foi obscure, c'est pas du tout, c'est au contraire une foi éclairante, etc. Et ça me rappelle la phrase drôle de Chesterton qui parlant des athées, dit les athées pensent qu'ils ne croient à rien, en fait ils croient à n'importe quoi. Et tout ça est assez rigolo. Que pensez-vous de cette idée de foi et de raison? Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre.
Je ne vous surprendrai pas en vous disant que je pense qu'il y a un accord absolu de la foi et de la raison, naturellement. Ouais. Bon, mais la question n'est pas tellement celle-là, de mon opinion sur ce sujet, mais plutôt d'essayer de comprendre comment, en effet, on peut habiter le régime de la foi, je vais le dire comme cela, comprendre d'emblée que dans la foi, on se tient certainement plus qu'en dehors de la foi, dans un ordre d'évidence parfaitement rationnel, parfaitement cohérent. Il y a une forme d'accord qui se fait entre ce que la sensibilité reçoit, l'affectivité promeut en nous, ce que l'intuition perçoit et ce que finalement, mais ça vient, je dirais, je le mets en dernier pour cette raison, ce que finalement l'intelligence corrobore, n'est-ce pas, pour bien entendu montrer dans un formidable accord de l'esprit et de la chair à quel point la foi, qui est personnelle au sens où nous le disions tout à l'heure, qui s'adresse au simple absolument, etc., en réalité porte une rationalité tout à fait considérable. La théologie ne cesse évidemment de visiter cette rationalité pour en rendre compte, de rendre compte de la crédibilité de la foi, et elle le fait d'une manière fort heureuse. Simplement, voilà, ce dont il s'agit toujours, c'est de bien se remettre, n'est-ce pas, dans la perspective d'une foi qui ne peut pas commencer par les vérités objectives. La foi n'est pas ce que l'on croit. Augustin ajoute, parce que cette formule est de lui, il faut le savoir pour en diminuer peut-être la dimension trop provocante, ou qui serait chez moi une affaire un petit peu comme ça, de volonté d'attirer le lecteur, à bon compte. La foi n'est pas ce que l'on croit, dit-il, elle est ce que l'on voit. Et que voit-on ? Que voit-on ? Sinon un ordre absolument de vérité, donc un ordre de raison, n'est-ce pas ? Ce que l'on voit, c'est bien évidemment un ordre et non pas quelque chose qui vous aveuglerait justement par le fait que ça partirait dans tous les sens, que ce serait quelque chose de très singulier, de très...
Péguy disait qu'il faut avoir le courage de dire ce que l'on voit, hein. Ça c'est... Ça aussi, c'est un peu ce que vous dites. Jean-François Rode.
À la fin du livre, vous citez Amélie Nothomb qui, dans son roman Soif, elle écrit ceci. « J'ai la foi. Cette foi n'a pas d'objet. Cela ne signifie pas que je ne crois en rien. » Croire n'est beau qu'au sens absolu du verbe. La foi est une attitude et non un contrat. Il n'y a pas de case à cocher. Et comment sait-on qu'on a la foi ? C'est comme l'amour, on le sait. Et vous dites, donnons-lui raison.
Oui, oui, cette phrase m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvée un peu par hasard. Et en fait, j'ai offert le livre à une de mes tantes, en pensant que ça la distrairait, tout ça. Bon, je ne suis pas un lecteur assidu d'Amélie Nothomb, mais alors là, je l'ai découverte, puis je l'ai entendue depuis dans des émissions, et c'est une femme vraiment très remarquable. Ce roman, qui est là, son avant-dernier roman, ça commence en effet, j'ai vu ça dedans, je ne sais plus à quel endroit, peut-être vers la fin.
Et j'ai trouvé ça. D'ailleurs, le titre Soif, c'est la soif du Christ en croix.
Absolument, absolument. Ouais. Et j'ai trouvé ça tellement en correspondance absolue avec tout ce que je raconte dans ce livre. Je me suis dit, ben oui, en fait, j'aurais pas dû du tout écrire ce livre. Il suffisait de donner la parole à Amélie Nothomb. Elle dit bien mieux que moi tout ce qui est essentiel à dire. Et dit, voilà, comment sait-on qu'on a la foi? C'est comme l'amour, on le sait, on le sait.
Merci beaucoup, Jérôme Alexandre. Nous conseillons Jean-François et moi, avec beaucoup, bien sûr, d'intensité, la lecture de votre livre « La foi n'est pas ce que l'on croit » qui est paru aux éditions Salvator dans la collection Forum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Notre-Dame. Merci beaucoup, Jean-François, et aussi à la librairie La Procure. Et je vous dis à tous, à demain.